Quand vous vous sentez coupable, qu'est-ce qui se cache derrière votre culpabilité? À l'époque où j'animais des séminaires sur les jeux de pouvoir relationnels, une des questions qui revenait le plus fréquemment de la part de mes participants, c'était la question suivante, c'est « Comment puis-je faire pour me débarrasser de la culpabilité ?» Alors, on pourrait se demander, mais pourquoi cette question revenait spécifiquement dans les séminaires sur les jeux de pouvoir ? Eh bien, la réponse, elle est toute simple, c'est parce que c'est à cause, entre guillemets, de la culpabilité que l'autre peut nous faire faire plein de choses que nous ne souhaitons pas faire a priori. Il suffit de réfléchir un peu à des circonstances dans lesquelles vous-même vous vous êtes senti manipulé. En fait, qu'est-ce qui a fait que vous avez répondu à la tentative de manipulation de l'autre ? C'est que très souvent, c'est que l'idée de dire non à l'autre vous mettait dans une situation de culpabilité. Vous mettait dans une situation où vous vous sentiez coupable à l'idée de refuser ce que l'autre vous demandait, alors que par ailleurs, vous sentiez bien que la demande de l'autre n'était pas nécessairement légitime ou que l'autre était en train d'abuser de vous. Et j'aimerais vous apporter et vous partager la réponse que je donnais la plupart du temps aux participants lorsqu'ils me posaient cette question, parce que c'est une question qui revenait de façon extrêmement régulière. Et avant de vous donner la réponse, et vous allez voir que c'est une façon totalement différente d'envisager le problème de la culpabilité, parce que beaucoup de psychologues ont travaillé sur cette question, beaucoup de livres ont été consacrés à cette question, mais je voudrais vous apporter une façon très différente d'envisager la culpabilité. Donc, restez avec moi jusqu'au bout. Vous allez avoir des surprises. Ça, je vous le promets. Bon, d'abord, il faut qu'on fasse une distinction entre « je me sens coupable » et « je suis coupable ». D'accord ? Je pense que ça, c'est assez évident. « Je me sens coupable », c'est quelque chose qui est subjectif, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement lié à des éléments objectifs, alors que lorsque je dis « je suis coupable », là, c'est que c'est lié à des comportements, c'est lié à des faits, c'est lié à des choses que j'ai accomplies et qui font que, effectivement, je suis objectivement coupable, je ne sais pas moi, de ne pas avoir respecté ma parole, je suis coupable d'avoir volé quelque chose à quelqu'un, je suis coupable d'avoir menti, etc., etc. Là, c'est « je suis coupable », effectivement. Alors que « je me sens coupable », je peux très bien n'avoir rien fait, ou, comme je vous le disais tout à l'heure, quelqu'un me demande quelque chose, je sens que non, c'est pas juste, je ne me respecterai pas en répondant oui, et pourtant, je vais dire oui parce que si je disais non, je me sentirais coupable. Mais je me sentirais coupable de quoi ? De rien, objectivement. Et pourtant, je me sens coupable. Donc, d'où est-ce que ça vient, cela ? On va le voir dans quelques minutes. Il y a aussi une différence entre « je me sens honteux » et « je me sens coupable ». Vous voyez, donc là, on est dans le domaine subjectif, mais la honte est beaucoup plus liée à un sentiment de dévalorisation de soi. C'est beaucoup plus lié à un auto-jugement, donc un auto-jugement négatif que l'on profère vis-à-vis de soi-même, et cet auto-jugement évidemment vient très souvent des messages que nous avons reçus, des messages toxiques que nous avons reçus de la part de nos éducateurs pendant notre petite enfance, qui fait que nous avons des sentiments de honte qui, la plupart du temps, sont totalement illégitimes, mais on nous a imposé un jugement négatif par rapport à certaines choses dont nous n'étions pas coupables, justement, vous voyez la différence, et qui fait que finalement, nous dévalorisons qui nous sommes au niveau de notre essence, et qui fait que nous sommes habités par un sentiment de honte toxique. Alors que le sentiment de culpabilité est beaucoup plus lié à des choses que j'envisagerais de faire, mais que je ne me permets pas de faire, sous peine, si vous voulez, de me sentir coupable. Bien. Alors, je pourrais vous donner quelques exemples rapides de choses qui ont été évoquées par des participants ou de choses que vous pouvez avoir vécues dans votre vie et où vous avez eu le sentiment de vous sentir coupable. Et vous allez bien voir la différence donc entre se sentir coupable et être coupable objectivement. Vous êtes d'accord? Bien. Regardons le premier exemple. Bon, alors le premier exemple, c'est « je me sens coupable de lui avoir dit non ». Voilà. Hein, c'est l'exemple que je vous avais donné. « Je me sens coupable de lui avoir dit non ». Voilà. Pourtant, je n'ai rien fait de mal. J'ai simplement dit non et effectivement, à une demande, il est tout à fait légitime de dire oui ou de dire non. Il y a personne qui peut m'obliger, si vous voulez, à dire non. Et pourtant, je lui ai dit non, je n'ai pas accédé à son attente, je n'ai pas répondu à son attente et malgré tout, je me sens mal par rapport à ça. Pourquoi ? On va y venir dans quelques instants. Je me sens coupable de manger à ma faim. Je me sens coupable d'avoir une bonne vie. Je me sens coupable d'être heureuse. Alors qu'il y a tellement de gens qui, sur Terre, ne mangent pas à leur faim, n'ont pas une bonne vie ou sont malheureux. D'où est-ce que ça vient, ce sentiment de culpabilité à avoir une bonne vie ou à manger à ma faim? D'où est-ce que ça vient, ça? On va le voir dans quelques instants aussi. Je me sens coupable de voir mon fils détruire sa vie en se droguant. C'est quoi l'idée? Écoutez, votre fils a 25 ans, votre fils a 30 ans, ça fait quelques années qu'il se drogue. En quoi est-ce que vous êtes coupable du fait que votre fils a choisi cette voie de s'autodétruire à travers la drogue? Intéressant, hein? Allez, un autre exemple. Je me sens coupable du suicide de mon ami. Est-ce que c'est vous qui avez tenu l'arme qui a fait que votre ami s'est fait sauter la cervelle? Est-ce que c'est vous qui avez tenu votre ami au moment où elle se passait la corde au cou? Est-ce que c'est vous qui avez poussé votre ami en bas d'un pont lorsqu'elle s'est suicidée en se jetant en bas d'un pont? Et pourtant, vous vous sentez coupable. Un autre exemple encore. Je me sens coupable de la crise cardiaque de ma grand-mère. Et ma grand-mère est morte. Oui, vous aviez 5 ans. Oui, mais enfin, j'avais été méchante ce jour-là. Oui, mais est-ce qu'il y a un lien de cause à effet entre le fait que tu avais été méchante ce jour-là et que ta grand-mère a fait une crise cardiaque et est morte le lendemain ou le surlendemain ou un mois plus tard? Allez, encore un dernier exemple. Je me sens coupable de la maladie de ma fille ou de l'handicap de ma fille. OK. Alors, c'est vraiment intéressant. Enfin, je ne sais pas si, à travers les différents exemples que je viens de vous présenter, vous voyez le caractère irrationnel de la culpabilité. Parce que dans aucune des situations que je vous ai présentées, il y a une véritable responsabilité. Alors là, il faut de nouveau faire une différence entre la culpabilité et la responsabilité, et c'est justement là que je veux en venir. Parce qu'en réalité, la culpabilité va avoir un lien, effectivement, avec notre sentiment de responsabilité. Et ce sentiment de responsabilité, il remonte à très très loin dans notre histoire psychique. Il remonte aux premiers mois, aux premières années de notre vie, où le bébé que nous étions peut avoir développé ce qu'on appelle en psychologie le syndrome de toute-puissance. Alors, qu'est-ce que c'est ce syndrome de toute-puissance? Eh bien, c'est un sentiment, c'est une sensation que le bébé peut avoir juste après sa naissance. En fait, le bébé, au moment où il naît, eh bien, il peut avoir l'impression subjective qu'il a créé le monde. Et effectivement, d'une certaine manière, le bébé a créé le monde, puisque le bébé ne peut pas imaginer, ne peut pas concevoir que le monde ait existé avant son arrivée. C'est-à-dire que c'est au moment où il entre dans le monde que le monde se crée autour de lui. Donc il a créé papa, il a créé maman, il a créé la maison qui l'accueille, il a créé le berceau dans lequel il se trouve, il a créé le médecin qui l'a aidé à accoucher, etc., etc., à sortir du ventre de sa mère. Donc en fait, le bébé a créé le monde. Ça, bon, écoutez, là je ne vous l'invente pas, c'est ce que un certain nombre de psychologues comme Melanie Klein, par exemple, explique dans ses travaux, c'est que le bébé, effectivement, peut avoir un sentiment, une sensation de toute-puissance. Et ce sentiment de toute-puissance va être renforcé par le fait que, dans les premiers jours, dans les premiers mois, dans les premières années de la vie du bébé, il suffit qu'il l'avale de travers, il suffit qu'il pleure une fois pour que tout de suite, le monde se précipite à lui. Hein? Regardez, le bébé va pleurer, va dire « Hop, on va lui donner tout de suite le sein. » Alors, messieurs ou mesdames, essayez aujourd'hui de pleurer dans un autobus et demandez-vous si beaucoup de femmes vont vous donner le sein directement, même si vous en auriez envie, d'accord ? Donc, le bébé a un pouvoir, le bébé a une puissance que vous n'avez plus, que moi je n'ai plus non plus. J'ai beau pleurer, ma femme ne va pas me donner le sein pour autant, d'accord ? Alors que le bébé, lui, lorsqu'il pleure, pouf, tout de suite, on arrête tout et on lui donne le sein, ou on arrête tout, on lui fait chauffer le biberon. Le bébé va pleurer parce qu'il a mouillé ses couches, on va tout arrêter et on va le changer, on va le langer. Le bébé pleure, hop, on va se précipiter, on va le prendre dans ses bras. C'est-à-dire que là, le bébé va commencer à se rendre compte que, à la moindre réaction de sa part, le monde extérieur, le monde des adultes, va se précipiter vers lui pour prendre soin de ses besoins. Et je dirais que c'est tout à fait dans l'ordre normal des choses lorsqu'on est un tout petit bébé, parce qu'un petit bébé est complètement dépendant des autres, de son environnement, pour survivre. Il n'est absolument pas capable de survivre par lui-même. C'est le mammifère qui va mettre d'ailleurs le plus de temps dans sa vie pour devenir autonome. Et parfois, on peut se demander si un jour, les enfants deviennent vraiment autonomes. Bien, mais ça, c'est un autre débat que je réglerai dans d'autres vidéos de cette chaîne. Bien, alors, donc jusque-là, pas de problème, et le bébé va construire un sentiment de toute puissance. Mais, à un moment donné, le père, c'est essentiellement le père, ou la réalité, va jouer un rôle de limite, va mettre une limite par rapport à ce sentiment de tout-puissance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les parents, et le père en particulier, c'est le rôle symbolique, c'est le rôle archétypal du père, si vous voulez. Le rôle du père, ça va être de mettre une limite par rapport à ce sentiment de toute-puissance. C'est le père qui va dire à l'enfant, ou qui va faire comprendre à l'enfant que il y a des limites à sa puissance et que maintenant il a 3 ans et que s'il pleure, on ne va pas nécessairement tout de suite, accéder à ses aspirations. On ne va pas tout de suite lui donner satisfaction. Et même s'il pleure pour obtenir un chocolat parce qu'il a faim, parce qu'il a envie d'un bonbon, etc., peut-être qu'on va lui dire non. Et c'est nécessaire et c'est sain que l'on pose des limites par rapport à l'enfant. Parce que quand on pose des limites par rapport à l'enfant, l'enfant va se rendre compte que finalement, sa toute-puissance, elle est assez relative, elle est de même de plus en plus relative, et qu'il n'a pas tout le pouvoir sur les autres, qu'il n'est pas capable de manipuler son papa, sa maman, ses éducateurs, sa nounou, ses frères et sœurs, etc., etc., et que finalement, son pouvoir est assez limité. Et ça, c'est lorsqu'on donne une éducation saine à un enfant. Mais il arrive que pour toute une série de raisons, parce que le père est absent, parce que les parents sont débordés, parce que les parents ont une philosophie la philosophie des années 70, où il était interdit d'interdire, où on a laissé les enfants s'épanouir en ne leur mettant aucune limite, etc. Pourquoi ? Parce que nous avons subi des siècles et des siècles d'éducation où nous étions contraints à subir l'autorité paternelle, l'autorité familiale, etc. Donc, en réaction dans les années 70, ça a été beaucoup à la mode dans les années 70, on laissait l'enfant faire ce qu'il voulait, c'est-à-dire qu'on a créé des générations d'enfants rois. D'accord ? Les enfants rois qui avaient le droit de tout faire et qui avaient le droit d'imposer leurs lois aux adultes qui étaient là et qui se sentaient de plus en plus impuissants et de plus en plus manipulés par ces enfants. Mais donc, ces enfants étaient tout-puissants. Bon, jusque-là, je dirais pas de problème. Mais rappelez-vous que cette toute-puissance, donc, c'est la croyance que j'ai créé le monde, j'ai créé papa et maman, j'ai créé mes frères et sœurs, j'ai créé la maison qui m'a accueilli, j'ai créé tout finalement. Donc, je suis le créateur du monde. Et ça, c'est sur le plan psychique que ça se passe, chez ces enfants rois, si vous voulez, chez ces enfants qui ont eu ce sentiment que tout leur était dû, qu'ils avaient la possibilité de tout contrôler dans le monde. Et ça, ça va être le mot-clé si vous voulez vous libérer de votre culpabilité ou de votre sentiment de culpabilité. Parce qu'à un moment donné, dans l'histoire de l'enfant, quand l'enfant va commencer à prendre conscience que le monde ne tourne pas aussi rond qu'on ne le voudrait, si vous voulez. Lorsque l'enfant se rend compte qu'il y a le mal dans le monde, lorsque l'enfant se rend compte qu'il y a des guerres dans le monde, lorsque l'enfant se rend compte qu'il y a des famines dans le monde, lorsque l'enfant se rend compte qu'il y a de la maladie dans le monde, lorsque l'enfant se rend compte que papa ou maman ne fonctionne pas bien, peut-être il est dans une famille dysfonctionnelle, peut-être que maman est dépressive, peut-être que papa est alcoolique, peut-être que maman et papa se sont disputés, peut-être que papa est parti, etc., etc. Peut-être que l'un des parents ou un grand frère ou une grande sœur est décédé prématurément. Si vous êtes créateur de ce monde, ça veut dire aussi que vous êtes créateur de tout le mal dans le monde. Vous êtes créateur de tous les malheurs du monde. Et donc, qu'est-ce que vous allez vouloir faire à partir de ce moment-là? Ben, ce que vous allez vouloir faire, c'est réparer. Évidemment, la toute-puissance va engendrer, si vous voulez, un sentiment de toute culpabilité. Et plus vous vous êtes senti tout-puissant dans votre petite enfance, plus vous allez nourrir, plus vous allez être victime, entre guillemets, d'un sentiment de grande culpabilité. Et donc, je me suis rendu compte dans ma pratique professionnelle que plus grande est notre sentiment de contrôler les choses, un sentiment qui peut être totalement inconscient, eh bien, plus grande va être notre culpabilité. Parce que si je contrôle tout, alors oui, effectivement, je suis responsable du mal-être que l'autre va ressentir lorsque je vais lui dire non. Alors, plus je suis dans le contrôle, plus je vais me sentir mal du fait d'être bien dans ma peau, de manger à ma faim et d'être heureux ou heureuse dans mon couple. Parce qu'il y en a d'autres qui ne sont pas heureux, mais comme c'est moi qui contrôle le monde, eh bien je me sens responsable du fait qu'il y a d'autres personnes dans le monde qui sont malheureux ou malheureuses. Si mon fils se détruit à l'âge de 30 ans en se droguant, eh bien, si j'ai le sentiment d'être celle ou celui qui contrôle la vie de mon fils et qui est encore complètement en contrôle de sa vie, c'est-à-dire qu'en réalité, je ne lui reconnais aucune autonomie sur le plan psychique et sur le plan de sa destinée de vie, eh bien oui, je vais me sentir coupable du fait de voir que mon fils est en train de se détruire au niveau de sa vie. Si mon ami se suicide, et si j'ai le sentiment d'avoir contrôlé mon ami, inconsciemment tout ça évidemment, eh bien oui, je vais me sentir coupable du suicide de mon ami, etc., etc. Est-ce que vous commencez à comprendre que si vous voulez travailler sur votre culpabilité, ce n'est pas en luttant contre votre culpabilité. Parce que c'est de nouveau cette fameuse loi de l'action et réaction dont je vous ai parlé déjà dans plusieurs vidéos, c'est que plus vous allez lutter contre votre culpabilité, plus cette culpabilité va augmenter. Parce que en luttant contre votre culpabilité, vous allez encore augmenter le contrôle, même y compris sur votre culpabilité. C'est-à-dire que vous allez faire pire que mieux, vous allez être encore plus dans le contrôle que de lâcher prise. Donc, je vous invite peut-être à regarder à partir de maintenant vos sentiments de culpabilité sous l'angle totalement opposé de la toute-puissance. Donc chaque fois que vous allez vous sentir coupable de quelque chose, eh bien posez-vous la question, en quoi est-ce que je me sens responsable de ce qui arrive à l'autre dans cette circonstance? En quoi est-ce que vous vous sentez en contrôle de ce qui arrive chez l'autre? D'accord? Et c'est un contrôle totalement subjectif, je vous le répète encore une fois. Ce qui veut dire que vous allez devoir, si vous voulez vous libérer de votre culpabilité, vous allez devoir accepter de faire le deuil que vous ne contrôlez pas tout dans l'univers. Ça, c'est dur hein, pour certains d'entre vous. D'accepter l'idée que vous n'êtes plus tout-puissant. Donc, c'est un véritable deuil psychologique que vous allez devoir faire. De dire, bon sang, mais c'est bien sûr, je ne contrôle pas tout dans l'univers. Je ne contrôle pas la vie de mon fils. Je ne contrôle pas les décisions de mon ami qui s'est suicidé. Je ne contrôle pas la crise cardiaque de ma grand-mère. Je ne contrôle pas la famine dans le monde. Ce n'est pas sous mon pouvoir. Ce n'est pas sous mon contrôle d'avoir une influence directe, en tout cas, là-dessus. Et donc, finalement, toute la question que vous allez devoir travailler, elle est double. C'est d'une part, où s'arrête ma responsabilité, où s'arrête mon contrôle. Et donc de dire, ok, je peux agir sur ce sur quoi j'ai une prise. Et ce sur quoi j'ai une prise, c'est essentiellement mes comportements, rien de plus. Par contre, l'autre élément sur lequel vous allez devoir faire un bout de chemin pour vous libérer de votre culpabilité, c'est de commencer à reconnaître chez l'autre son droit inconditionnel à être responsable de sa vie. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez rendre aux autres la responsabilité de leur propre existence. Ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aider les autres, ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être solidaire de ce qui se passe pour les autres, mais ça, je traiterai ça dans une autre vidéo sur la différence entre aider quelqu'un et prendre en charge quelqu'un, parce que justement, aider quelqu'un, c'est lui apporter votre aide, c'est lui apporter votre soutien, mais en reconnaissant inconditionnellement sa capacité et sa liberté, y compris à faire son propre malheur. D'accord ? Alors que prendre en charge quelqu'un, c'est ne pas lui reconnaître sa liberté fondamentale à choisir ce qui lui paraît bon pour lui, même si objectivement, c'est peut-être pas aussi bon que ce qu'on pourrait l'imaginer, les choix qu'il a fait au niveau de sa propre vie. Et donc, si vous vous sentez encore coupable dans votre existence, repensez à cette question fondamentale, c'est « est-ce que je me sens tout-puissant ? Est-ce que je me sens responsable ? Est-ce que je me sens en contrôle de ce qui est en train de se passer dans mon existence ?»